pay my dues with effort. I still lose count, counting my blessings. Sold dabs at my gigs, pain is the essence. Now I'm making hits, taking them hits, make me a weapon, I never had a pot to piss in. Now I piss in a pot of gold and watch it glisten. In a race on my own race, that's not the mission. That's why I'd rather link Western than Coppersmith. And every time I top was missing, I went missing. Came back and left the old me, my friends miss him. How am I gonna stay the same, trying to make a difference, trying to make a living, then make a killing and live killing shit. I mind my business, cause my mind's where my business is. Kicked out of business, study my businesses. It's kinda crucial what Miss Simmons did. I got away with words, cause I'm a lyricist. Mama needs a new stove, so I do stove. Could've got sectioned, I had to do road. And now I got some new dough off a new flow. Couple diamonds, I can kill one bird with two stones.
I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen, counting money, watching Boondocks. Then I put it in my shoebox, still trying to put my crew on. Ring the alarm, ring the alarm. Everybody run when the popo come. All I see is a smoking gun.
How am I gonna sign a deal with ya? Even deal with ya? If you don't deal with me properly, what's the deal with ya? I was taught to be real with ya, so I'm real with ya. Though I'm in Tommy Hilfiger, still a real nigga. Yeah, my plan A was my plan B. I only plan my A levels for my family. And now I'm with a bad bitch and some bad breed youths. Even though I can't change them, I can teach. The things we used to do, four figures. Now I do a one show and that's a new four figures. I can go forever and a few more minutes. I'm just trying to paint pictures. I don't do this for the image. I do this for the broke niggas, yeah. Not to lose a little hope. And it's over, there's some joke niggas. I don't dodge my old women. Cause there's nothing wrong with gold diggers. When you dig for gold with your old niggas. Shining from the ground up, we was grinding. Told the man then watch cause it's timing. The top is like a DM, I'ma sliding and bring my people through. I've got pride in my life.
I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen, counting money, watching Boondocks. Then I put it in my shoebox, still trying to put my crew on. Ring the alarm, ring the alarm. Everybody run when the popo come. All I see is a smoking gun.
Life when you've had a good dream, the alarm's not nice. Heart on my sleeve, but my gums weren't nice. I would talk to myself and ask for advice like, how am I gonna get this dough? And what's really worth my time? Do I say yes or no? Do I let shit slide or do I get involved? And everything changed when I went with the flow.
I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen, counting money, watching Boondocks. Then I put it in my shoebox, still trying to put my crew on. Ring the alarm, ring the alarm. Everybody run when the popo come. All I see is a smoking gun. Oh, yeah.
Globule Radio, l'oreille experte.
Je ne me trompe jamais, j'ai l'oreille musicienne.
Monte le son.
90.5 FM.
Bonjour à tous, nous sommes vendredi et vous êtes bien sur Globule Radio 90.5. Je suis Juliette et l'on se retrouve de nouveau pour l'émission du soir, votre magazine de l'été. Pendant 2 heures, nos studios seront installés du côté de l'Alibi Bar, ce bel établissement situé au centre-ville de Chamonix. N'hésitez pas à venir y faire un tour ou à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Globule Radio Chamonix et l'Alibi Chamonix. Car aujourd'hui, une émission un peu particulière vous attend puisque nous allons parler montagne, ou plutôt haute montagne. Expédition à l'Everest, ascension du Mont Blanc, nouvelles réglementations, écologie en haute montagne, alpinisme ou encore photographie à haut risque. Le programme s'annonce chargé. Durant toute l'émission, je serai d'ailleurs accompagnée de ma collègue Yael. Bonsoir Yael, comment ça va ce soir ?
Salut Juliette et salut à tous les auditeurs. Bah, ça va très bien, merci. Et j'ai hâte que l'émission commence parce qu'on a prévu un joli panel d'invités ce soir.
En effet, Yael, Ce soir, et on en est d'ailleurs très fiers, nous accueillerons tout d'abord Éric Gramont, guide de haute montagne et troisième français à avoir gravi l'Everest sans oxygène. Il nous racontera évidemment ses expéditions, mais ce sera aussi l'occasion de parler écologie en haute montagne. Photos d'alpinistes en file indienne en haut des sommets, déposes et lisquis, déchets laissés le long des sentiers, qu'en est-il ? Nous en parlerons avec lui dans quelques minutes. Nous recevrons ensuite Pascal Tournaire, alpiniste chevronné. Il est aussi et surtout photographe, spécialiste des prises de vue en conditions extrêmes. Il a d'ailleurs suivi de nombreuses expéditions et gravit les plus hauts sommets de la Terre, entre autres les Seven Summits, les montagnes les plus élevées de chaque continent. Il sera avec nous pour nous parler de son métier atypique et de son approche de la photographie.
Et pour terminer, nous parlerons tous ensemble du Mont Blanc. Une nouvelle réglementation a été instaurée pour y accéder. Le but, mieux réguler le flux d'alpinistes sur ce site surfréquenté, protéger le toit de l'Europe et prévenir les risques. Mais qu'en pensent les professionnels ? Le Mont Blanc reste-t-il le sommet numéro 1 à Chamonix ou les alpinistes s'orientent-ils sur d'autres ascensions ? Nous en discuterons ensemble.
Un peu de musique pour commencer, puis retrouver votre agenda du soir.
Like Alicia Keys, too many featured them scenes, and producers is popular. you need a boost. Simped out with a pimp cup, illiterate nigga. Read the info. Red across your head, I bring green like Simba. Voted in Denver. I ain't a mad rapper, just an MC with a temper. You dancing for money like honey. I did this my way. So when the industry crashed, I survived like Kanye. Spitting through wires and fires, MC's retiring. Got your hands up, get the motherfuckers higher than.
Throw your motherfucking hands.
Get them high.
Man, get 'em high. Now I ain't never tell you to put down your hands.
Keep 'em high, keep 'em high, keep 'em high.
And if you're losing your high, then smoke again.
Keep 'em high.
I'm trying to catch the beat. I'm trying to catch the beat. I'm trying to catch the beat. I'm trying to catch the beat.
You're listening to Globo Radio 90.5. It's time for the evening agenda. There's so many things happening in the Chamonix Valley. There's never time to get bored in Chamonix. Once you're done with your climbing, biking, hiking, road biking, rafting, parapointing, then it's time to join in on Chamonix culture events. Here's a few ideas of what you can get up to this evening in the valley. Visit Big Mountain Bar at Avenue Ravenel on the High Street and enjoy some sweet folky tunes by Danny Ullman on mandolin and Jeremy Bogan on guitar and vocals. They'll be starting at 6 p.m.
Que se passe-t-il ce soir, vendredi 2 août, dans la vallée de Chamonix? On vous annonce tout de suite, le programme est chargé. De 18h à 21h, Sweet Tunes on the Big Mountain Terrace. Jérémy et Danny sont de retour avec leur style blues et folk pour illuminer la terrasse du bar Big Mountain. Ça se passe avenue de Ravenel-le-Rouge.
The multi-talented Richard on keys, guitar and vocals will be playing live music at the coolest place in town, Cool Cats on Rue de Moulin from 5 p.m.
À 17h, comme tous les vendredis, retrouvez Rich Rats au Cool Cats, avenue des Moulins.
At 7 p.m, Les Ferrats on guitar, vocals and accordion will be playing live music at Le Robinson at 309 Promenade des Crémières.
Live musique au Robinson. À 19h, le groupe Les Farats s'y représentera comme tous les vendredis et ça se passe promenade des Crèmeries près de la zone d'atterrissage des Parapentes à Chamonix. Vous pourrez aussi les retrouver à 22h juste à côté au Woods Bar.
de prendre place dans notre studio à l'Alibi. Il est guide de haute montagne, fondateur de Kailash Adventure, recordman du monde d'altitude en parapente biplace. Il a passé 8 ans au groupe militaire de haute montagne et il a été le 3e français au sommet de l'Everest sans oxygène. Éric Gramont, bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais tout d'abord que vous me parliez un peu de vous, cette passion pour la montagne, ce goût du risque et des sensations fortes. D'où cela vient-il ?
Bah, comme beaucoup, de mon père qui pratiquait la montagne, qui n'était pas guide mais qui pratiquait la montagne et qui m'a fait connaître l'escalade à l'âge de 16 ans. Et à partir de là, bah, j'ai fait l'école buissonnière pour aller grimper.
Il y en a beaucoup bizarrement.
Je partais avec mon cartable, j'étais en biochimie, je partais avec mon cartable et dans le cartable il y avait la corde et les mousquetons et je faisais du stop et mes parents ils pensaient que j'allais à l'école mais non.
Ça allait grimper.
Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois. Et après, il a fallu que je fasse quelque chose quand même. Donc, je me suis engagé dans l'armée. Et là, j'ai trouvé une filière de rêve. J'ai été engagé par le groupe militaire de haute montagne. Et après, je ne l'ai plus quitté pendant 10-12 ans.
Donc, je le disais il y a un instant, vous êtes le 3e Français à avoir gravi l'Everest sans oxygène. Comment cette ascension s'est-elle préparée ?
Ben, elle s'est préparée déjà avec toute l'équipe du GMHM. Donc c'était un projet qui tenait à cœur au GMHM parce qu'ils avaient déjà fait une tentative en 81 et donc quasiment 10 ans après, on a un peu plus de 10 ans après, on a refait une tentative et cette fois-ci peut-être un peu plus légère que la première et surtout par le versant népalais alors que la première expédition en 81 avait eu lieu par le versant chinois.
Et donc les deux tentatives, c'était toujours dans le but d'atteindre le sommet sans oxygène ?
Alors non, je crois pas. Honnêtement, je suis pas sûr parce qu'en 80, moi j'y étais pas. Je suis rentré en 84 au GMHM. Mais en 80, il me semble qu'ils étaient quand même bien équipés parce que avec de l'oxygène. Parce que le versant, déjà à l'époque, c'était pas si évident que ça. Et puis surtout le versant chinois et tu restes plus longtemps en altitude au-delà du 8000 que par le versant népalais, donc c'est un peu plus délicat de le faire sans ox.
Et combien de temps donc vous avez mis pour atteindre le sommet, si vous pouvez nous faire un petit récit des différentes étapes, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs paliers, enfin ça se fait pas en 3 jours quoi d'atteindre le sommet de l'Everest.
Alors
c'est long.
On l'a fait en 3 jours en partant du camp de base. Enfin, moi, je l'ai fait en 3 jours en partant du camp de base. Mais ça a demandé 2 mois de présence de plusieurs personnes, de toute l'équipe, en fait, pour préparer les camps d'altitude. Donc, puisqu'on monte des camps d'altitude, on arrive au camp de base, on installe le camp de base. Ensuite, on installe le camp 1, le camp 2, le camp 3, le camp 4. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on fait plusieurs voyages aller-retour en altitude. Et une fois que tous les camps sont installés et alimentés, parce qu'il faut les charger en gaz, en nourriture, etc., en duvet et tout ça, une fois qu'ils sont chargés, ben là on lance les vagues d'attaque.
Donc on monte.
C'est bien bidasse là.
Là c'est sérieux.
C'est bien militaire. Donc on monte les vagues d'assaut et puis donc on a plusieurs équipes qui tentent leur chance continuellement jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais bon, si on a des bons renseignements météo et qu'on est prêt ce jour-là, normalement ça passe assez bien. C'est quand même pas une montagne difficile, surtout par le versant népalais.
Donc vous avez réussi du premier coup.
Oui, ouais.
Et donc sans oxygène, d'un point de vue physique, je me demandais si la différence elle était si grande en fait. Est-ce que c'est réellement beaucoup plus compliqué qu'avec les bouteilles d'oxygène ?
Alors là, c'est un toubib serait plus à même de vous répondre, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, nous, on avait fait des tests. On a eu la chance de pouvoir faire des tests, un peu comme l'expédition avec Éric Escoffier il y a quelques années, qui avait fait Turbo Everest et qui avait fait un séjour dans un caisson hypobar, donc pour simuler l'ascension. Et nous, on a eu la chance de faire ça pendant 5 jours ou 4 jours. À Grenoble. Et donc on s'est aperçu que certains avaient plus d'aptitudes que d'autres. Et rien à voir avec les aptitudes physiques, mais plutôt physiologiques. C'est-à-dire que notre corps, certains d'entre nous, avaient un corps qui assimilait plus facilement l'oxygène à basse pression. Donc du coup, on s'est dit, ceux-là, ils ont quand même plus de chances d'arriver sans ox que les autres. Donc comme c'était un peu quand même le challenge, c'était de mettre quelqu'un sans ox pour faire le 3e Français sans oxygène. Eh ben bon, c'est tombé sur moi parce que j'ai eu la chance que ça m'arrive, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le physique. Il y avait des mecs qui étaient bien plus forts que moi dans l'équipe physiquement, et qui n'avait pas cette aptitude. Voilà, c'est juste une question de chance.
Beaucoup de chance en tout cas quand même. Hein.
Ouais, mais j'en ai toujours eu beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de conneries.
Et donc je me demandais, enfin moi-même, mais j'imagine que la plupart de nos auditeurs ne sont jamais allés en haut de l'Everest, sur le toit du monde. Qu'est-ce qu'on ressent une fois là-haut? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Parce que nous, pour nous, ça paraît inimaginable. On n'arrive même pas à s'imaginer ce qui peut se passer là-haut.
En fait, ça n'engage que moi, mais quand on est allé, avant d'aller sur l'Everest, à cette époque-là, parce que c'était en 92, on avait tendance à d'abord aller sur d'autres sommets. D'autres sommets, des 7000, des 8000. Maintenant, c'est plus trop le cas. Maintenant, on consomme l'Everest comme on consomme un hamburger. Enfin bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qu'il y a, c'est que là, avant, on voyait des 7000, des 8000 depuis le bas, donc qui nous écrasaient, un peu comme on regarde le Mont Blanc là. Et ce qui frappe, c'est que quand on est au sommet de l'Everest, on voit tous les 8000 ou tous les 7000 que l'on voyait d'en bas, on les voit en dessous.
Waouh!
Un peu comme si on regardait l'aiguille du midi tous les jours, et puis qu'un jour
elle est toute petite,
on va au Mont Blanc et on la regarde du Mont Blanc, et elle est toute petite. Alors qu'avant elle nous écrasait, elle nous impressionnait. Voilà, c'est ça qui était impressionnant, c'est qu'on voyait le Lhotse, on voit le Makalu au loin, on voit le Jiashunkang, enfin, on voit le Kamet qui est juste à côté, le Shouyu, qui sont énormes. Et de l'Everest, ils sont ils font un peu plus petits, quoi. Et ça, c'est super impressionnant. Ça, c'est vraiment méga impressionnant. Et nous, on est resté une heure au sommet. Et grosso modo, on est resté une heure à regarder ça.
Une heure à 8000 mètres et tout allait bien.
Oui, ouais. Mais on fait pas d'efforts, on court pas. Hein.
Oui, j'imagine qu'on marche doucement.
Ouais.
Hein.
Ouais, on fait pas les canards là-bas.
Et enfin, on a beaucoup parlé de l'Everest, mais vous êtes parti en expédition un peu partout dans le monde. Quel est votre meilleur souvenir, ou en tout cas un fait plus marquant que les autres?
C'est pas forcément montagne. Moi, ce qui m'a le plus halluciné, c'est un pays qui est à la fois... Parce que certains pays sont, on pourrait dire, beaux, mais mal habités, ou alors moches, mais bien habités.
Et il y en a un qui a les deux.
C'est un peu réac, mais j'ai trouvé l'Iran hallucinant, de beauté, et avec des gens hallucinants, de gentillesse. Et moi, le voyage qui m'a marqué le plus, c'est ça. Bon, forcément, les vrais, ça marque. C'est parce que c'est un peu un graal pour un himalayiste. Mais j'ai fait un voyage en Iran pour faire le Damavan et puis un peu d'escalade et d'autres sommets. Mais c'est le pays qui m'a le plus subjugué, parce qu'il est beau, parce que les gens sont juste incroyables, à tel point qu'on a l'impression qu'il y a des caméras cachées de partout. Tu te dis, c'est pas possible.
Ils sont trop gentils.
Ils sont trop gentils, mais c'est dans leur c'est dans leur gène.
Eh bien, merci beaucoup Eric d'avoir accepté de nous parler de ces expériences. Une petite pause et on vous retrouve dans quelques minutes pour parler malheureusement d'un triste constat: les conditions climatiques et écologiques inquiétantes en haute montagne. Yo, ladies and gentlemen, we got Toni Braxton up in the house. So hot that I can kiss the sky, bitch. We live up in here, y'all. It's getting hot. Yeah, let's go. Yeah. Cacao shitting again, spitting the wind, loaded guns, clipping the end, none sicker than him. Yes, indeed, I'm iller than the STDs or sex disease. These dirty rats want extra cheese on that piece of the pie. Now ask me how high, I tell you, reach for the sky. Fling the crooked letter rock, that's my home. 23's wrapped in chrome. Not only snap on y'all niggas, but I'll snap them bone. Slap your dome, make you leave that crack alone. You got the key to the city, but the latch is on. I got to lock, bringing the noise, bringing the funk, got the spot. Bringing my boys, bringing you lumps, pop the Glock. But only if you feel this shit. Jack the Ripper, don't make me have to kill this bitch. Back to get ya, put it in check. That's the Mr. Matt with his foot on your neck. Shut your lips up. Smoke cheaper, cheaper, smoke cheaper, cheaper. You're so hot that I can kiss the sky. Sky, sky. Brick City to the crooked letter I. Let's get, 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 let's get
yes, you can. Call on the man when the party is boring. I had these hoes stripping till it's part of the morning. I love a fat chick with a body enormous. It ain't about the weight, yo, it's how they performance. My dash is 180, my weed half a pound. When it's smoke in the air, my nose like basset hounds. I don't stash the drug, nigga divide. I'm that nigga that ride with a trigger to get a supply. Ha, it's how I stay all the time.
Niggas close your door.
Yo, bitches shut all your blinds. If I'm hard to find, take two puffs and pass. I stayed back, but my biz moved up a class. It's Dr. Meth, the format is real sickening, contagious. We out for Mr. Big's women. You better shut your trap when my dog's around. We pissing on fire hydrants, so walk around, bitch.
I get so high.
Smoke cheaper, cheaper, smoke cheaper, cheaper.
I can't touch the sky.
You're so high that I can kiss the sky.
I get so high.
Brick City to the crooked letter I. Let's get it.
Mr. Method Man, putting in work, foot in the dirt, like it's all good. Roll through your hood, pushing a hearse, I wish y'all would. Come around like Clint Eastwood, as if you're repping your hood in my neck of the woods. Speak for villains in the PJs. Grimy bitch, I wear the same shit for 3 days. Find me lit, blunt sparks like Felipe. Fuck the he say, the she say, you're just a microphone. What's the cliche?
Call me the Bob Backlund. I break backs on hoes that look like Tony Braxton. Come run with these bony masked men. I'm out the gutter. I'm out to send your baby mother out for rubbers. We fucking tonight. Bitches wanna crowd around, huh? I'm cuffing the mic. I'm a gorilla. Leave a banana stuck in your pipe. Cause I'm a real block winner. With Doc Inner. Bitch, one of my balls bigger than the Epcot Center.
I get so high.
Smoke cheaper, cheaper, smoke cheaper, cheaper.
I can touch the sky.
You're so high that I can kiss the sky. Sky, sky.
I get so high.
Brick City to the crooked letter I. Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it.
I get so high.
Smoke cheaper, cheaper, smoke cheaper, cheaper.
I can touch the sky.
You're so high that I can kiss the sky. Sky, sky.
I get so high.
Brick City to the crooked letter I. Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it.
L'agenda du jour.
L'agenda du jour.
L'agenda du jour.
Time for the daily agenda. Made for you by Globio Radio.
Globule Radio.
You're listening to Globio Radio 90.5. Globio has got some ideas of what you can get up to Saturday in Chamonix. You can join in on a walk at Col de Montan at 10 a.m. They will walk you through the mountain villages and observe plants, and you will learn to identify them. For more information about this walk, please check out Chamonix.com and the tourist office agenda there. For the children in Chamonix, go to the library in Chamonix at 99 Rue de Patinoire and listen to stories and play board games. This is all starting at 3 p.m. Start the early Saturday evening with some apéro at Cool Cats and Bard Up on Rue de Moulin. Sweet and Sour, which is me, Maya Hughes and Douglas Jones. We're playing some live music there from 5 o'clock. Warm up in the woods. Woods Open Air Bar, Le Robinson. I've got a DJ on call, Willie T, who'll be playing disco and techno in the house. This is from 7 o'clock. Go up to Arshonche, where La Yacht has got a band on. They'll be playing rock and funk, and they'll call Izama. This will go on from 9:30 p.m. Or pop into Fuldu's Hotel, where they've got great black music stories on. The DJ Hugo Belter will be playing there from 10 p.m. Finish the evening at Maison des Artistes, where the Selkis will be playing music from 10 p.m.
Que se passe-t-il ce samedi 3 août dans la vallée de Chamonix? Dès 7h30, retrouvez le marché hebdomadaire de Chamonix. Vous y retrouverez de l'alimentation, les produits du terroir et de l'artisanat local, et c'est jusqu'à 12h30. Vous pouvez vous joindre à une promenade au col des Montèdes, 10h à 16h30. En cheminant à travers les villages, vous pourrez observer de nombreuses plantes et apprendre à les identifier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Office du Tourisme ou au 06 09 81 36 97. 06 09 81 36 97. Pour les enfants, nous vous conseillons de vous rendre à la médiathèque de Chamonix pour écouter des histoires contées et jouer à des jeux de plateau. Ça commence dès 15h. Si vous êtes du genre à commencer l'apéro en avance, rendez-vous rue des Moulins entre le Cool Cats et le Bar Dup pour Sweet and Sour avec Jerry et Maya pour un concert jazzy à partir de 17h. Au Woods Bar, à côté de la piste d'atterrissage des parapentistes, retrouvez le DJ Willy T qui vous a préparé un set disco, house et techno, c'est à partir de 19h. On remonte vers Argentière chez nos amis de la Yacht Café et c'est le groupe Istama qui se représentera, un style ultra festif où se mêlent swing, ska, chansons françaises, rock et funk, start à 21h30. Toujours à Argentière, Arc 64.
Éric Gramont sur Globule Radio 90.5. Nous avons parlé de son ascension de l'Everest, de ses expéditions, de sa passion pour les sports extrêmes. Seulement, son outil de travail, la montagne, est en danger et il est grand temps de faire quelque chose. La surfréquentation des sommets, les déchets laissés un peu partout au bord des sentiers, le changement climatique, les moyens de transport polluants, autant de choses qui abîment petit à petit nos montagnes et mettent en danger notre belle nature, mais aussi les alpinistes. Éric, tout d'abord, j'aimerais savoir, vous de votre côté, en tant que guide, quel constat écologique faites-vous, notamment ici dans le massif du Mont Blanc, et est-ce si catastrophique que ça?
Oui, c'est catastrophique. On le voit tous les jours, avant tout par les glaciers. Pour vous donner une idée, plus près.
On a eu un petit souci de micro, mais on reprend.
Donc, pour vous donner une idée, sur l'année 2018, pendant la journée la plus chaude, la mer de glace a perdu 16 cm d'épaisseur. 16 cm d'épaisseur en une seule journée.
Waouh!
Sur la journée la plus chaude. Et on est en 2019, on a eu des journées records, on a eu plusieurs jours de canicule. J'ose pas imaginer combien elle a perdu, mais juste ça, ça fait peur. Quand on voit la glace du triangle Utacule, elle date de 2500 ans. C'est-à-dire que elle a été faite il y a 2500 ans et là elle est en train de fondre, elle est en train de disparaître sur la face nord du triangle Utacule. Quand on voit là on pratique beaucoup le parapente, on a vu l'évolution du décollage parapente que l'on fait au sommet des grandes montées. On a l'impression qu'il y a les rochers qui poussent
qui poussent sous vos pieds comme des champignons.
Voilà, ça pousse de chaque côté du décollage. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste le décollage qui fond, parce qu'on décolle sur le glacier des Grands Montées. Le décollage fond et petit à petit, on n'a plus de décollage, on est obligé de se déplacer, la pente diminue, etc. Ça, on le voit de nos propres yeux, c'est-à-dire dans l'espace de 10-20 ans. C'est ça qui est juste hallucinant, parce que les glaciers ont déjà été plus hauts qu'ils ne sont, puisque les traces, le sol qu'ils découvrent, on relève des traces de végétaux. Donc, ils ont déjà vu la lumière. Mais à cette vitesse-là, jamais. Jamais, à cette vitesse-là, jamais. Donc, beaucoup de glaciologues disent qu'à la fin du siècle, 80% des glaciers des Alpes auront disparu. Donc, ça veut dire qu'à la fin du siècle, le Mont Blanc, on va le faire en basket.
Oui.
Ça va être le Kilimandjaro des Alpes. Et juste ça, moi, ça me fait flipper, oui, ça c'est sûr.
Donc vous avez fondé Kailash Adventure, une compagnie de guides ici à Chamonix. Et il n'y a pas si longtemps, vous avez déclaré dans une vidéo ne plus vouloir proposer de l'héliski à vos clients. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?
Parce que ça tient, c'est plus défendable.
Pourquoi?
Parce que c'est... en fait, faire de l'héliski, c'est un produit de luxe. Ce qu'on fait en hélice, en hélicoptère, on peut le faire à la force des jambes. Et ça allait très bien, enfin je veux dire, c'était à peu près concevable tant qu'on ne s'apercevait pas de cette catastrophe. Mais là maintenant c'est hallucinant. Une heure de vol c'est 160 litres de kéro. 160 litres de kéro, c'est ce qu'il faut à un camion pour traverser les Alpes. Donc ça veut dire que pour 4 personnes, parce qu'en général c'est 4 clients, pour le plaisir de 4 personnes, on fait traverser les Alpes à un camion. Si ça choque personne, c'est sûr, il faut continuer. Mais c'est moi, il y a longtemps qu'on s'en est rendu compte. Il y a longtemps que beaucoup de guides ont arrêté de faire de l'héliski. Ce qui serait bien, c'est que les compagnies le disent, même si elles le font déjà. Il faut qu'elles le disent pour lancer quelque chose, un mouvement. Et j'irai même plus loin, les syndicats. Les syndicats, il y a des syndicats de montagne. Les syndicats devraient se mettre en première ligne pour dire oui, l'héliski c'est plus défendable. L'héliski, peut-être que ça nous fait vivre un peu, beaucoup pour certains, mais c'est plus défendable. C'est quelque chose qu'on peut plus, qui correspond plus à l'éthique de notre métier.
Et donc, au-delà de l'héliski, il y a aussi le problème de la surfréquentation. Vous avez certainement dû voir cette photo de centaines d'alpinistes à la queue leu-leu sur la crête qui rejoint le sommet de l'Everest. Cette photo a fait le tour du monde en mai dernier, mais qui est une saison propice pour l'ascension de l'Everest, mais qui s'est terminée avec un bilan de 11 morts. Quand vous avez vous-même fait l'Everest, est-ce qu'il y avait déjà ce problème de surfréquentation et est-ce, selon vous, devenu trop accessible?
Alors... Non, il n'y avait pas ce problème de surfréquentation en 92. On était nombreux, on trouvait qu'on était déjà trop nombreux, mais ça n'avait rien à voir. En fait, si on compare à la photo qu'on a vue au mois de mai, il n'y avait personne, c'était le désert.
On était 10, on était 10.
Voilà, ouais. Ça fait peur parce qu'en fait, l'Everest n'est pas plus accessible, la montagne n'a pas changé, il faut quand même prendre des sherpas et des porteurs, la logistique est la même. Le seul problème, c'est que maintenant on vend l'Everest avec de l'oxygène et que demain on le vendra à coup d'hélicoptère. Et c'est sûr même, puisque il y a une quinzaine d'années, un hélicoptère s'est posé au sommet de l'Everest. Bon, c'était un hélicoptère léger.
Mais ça vole à cette altitude.
Oui, ça. Ils ont modifié l'hélicoptère, ils l'ont allégé. Il y avait qu'un pilote à l'intérieur. Il a posé un patin, il est reparti. Et je me rappelle d'ailleurs qu'un collègue, Hubert Giot, avait écrit une petite histoire à la suite de ça, en disant c'est la fin de l'Himalaya, c'est la fin de l'himalayisme. Parce que c'est bientôt, dans 50 ans, ça sera un coup d'hélico pour ceux qui veulent descendre à ski, un coup d'hélico pour ceux qui veulent descendre en parapente, et puis avec les tour opérateurs qui feront des vols panoramiques. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Et là, on est en train de, on y va tout droit parce que faire miroiter l'Everest à des gens en leur proposant 7 bouteilles d'oxygène alors que normalement 3 sont suffisantes. De façon à ce qu'ils y arrivent, parce que faut pas rêver, quand quelqu'un va au sommet de l'Everest avec 7 bouteilles d'oxygène, c'est comme s'il faisait un 6005, un 7000. Mais en fait, ce qui est important, c'est la photo.
C'est Instagram.
C'est pas l'oxygène. Voilà. Oui, mais c'est ça. C'est qu'on est une société de consommation et ce qu'on veut, c'est consommer. Alors oui, la rendre accessible, d'accord, mais il y a des limites. Ouais, pour moi, on est fautif pour ça, on est entièrement fautif. Certains disent que c'est le gouvernement népalais. Non, c'est nous. C'est nous parce qu'on les vend.
Et on parle beaucoup donc de l'Himalaya depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'ici à Chamonix, dans le massif du Mont Blanc, on a le même type de problème en fait? Et quelles seraient les solutions? Est-ce que pour aller au sommet du Mont Blanc, pareil, c'est hyper fréquenté, on croise je sais pas combien de personnes?
Oui, parce qu'en fait, c'est les hauts sommets qui font aimant et qui attirent tous les gens. Donc le Mont Blanc, il attire tout le monde parce que c'est le plus haut. Et bien, parce que je vais être méchant, mais ça fait bien sur la carte de visite, c'est sûr. Mais bon, j'étais le premier à l'utiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est une société de consommation et qu'on voit la clientèle qui est différente et qui vient pour un coup et qui s'en va. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est faire le Mont Blanc et puis après ils s'en vont. Donc, on se demande si c'est pour la photo sur Facebook ou Instagram ou si c'est vraiment pour pratiquer de la montagne. Quand on leur dit, nous on est plutôt adepte de leur dire non, on va pas là-haut pour un sommet. L'objectif, c'est de se faire plaisir et d'être en montagne. L'objectif, ça n'a jamais été le sommet. Bah, c'est super, c'est de plus en plus dur à faire accepter à la clientèle. Dire non, on va faire sommet, oui d'accord, on va essayer de le faire. Mais on va essayer avant tout d'être en montagne et de vivre en montagne. Le sommet, c'est accessoire. On y arrive si on a de la chance, avec le temps, avec les conditions, etc. Mais avant tout, c'est d'être en montagne. Ben ça, on a de plus en plus de mal à leur faire comprendre, à faire comprendre à notre clientèle. Et le Mont Blanc, ben c'est un peu ça. Le Mont Blanc, si dans 50 ans, si ça se trouve, il aura perdu 100 mètres d'épaisseur.
Et plus personne n'y trouvera
un intérêt. Il sera plus intéressant, puisqu'il ne sera, sera pas le plus haut. Donc,
Eh bien, merci beaucoup Éric Gramont. Et avant de vous retrouver pour justement parler plus en détail du Mont Blanc et de son accessibilité, les célèbres questions au chapeau. Alors, je vous explique le principe. Yael tient comme une petite boîte dans ses mains. Il va falloir piocher deux petits papiers et répondre du tac au tac.
Hop. Ah, deux.
Deux. Ah bah oui, quand même. Alors, Yael va vous lire les questions.
Alors, Éric Gramont, que feriez-vous s'il vous restait une seule journée à vivre?
Oh, c'est banal ça.
C'est banal quand même, hein. Moi je sais pas ce que je ferais, hein.
Si j'avais qu'une seule journée à vivre, bah, je serais partagé entre la vivre avec avec les miens, mais au risque de les faire pleurer. Donc je sais pas si ce serait une bonne option. Je pense que je préférerais j'en sais rien. J'irai en haut de là. Non, je sais. Honnêtement, je sais pas.
C'est
trop banal. En parapente. Je m'enverrai en parapente et j'essaierai de faire un vol magnifique de je sais pas où.
Dernier
Donc,
vol.
Je ferai mon métier en fait. J'essaierai de faire mon métier parce que j'adore.
L'avantage de faire son métier avec passion.
Et seconde question, si vous pouviez assister au concert d'un artiste disparu, qui est-ce que vous choisiriez?
Comment il s'appelle? Moi je l'appelle Assi Bonanga.
Assi Bonanga. Bon, on sait pas qui c'est.
Celui qui est décédé il y a peu de temps.
Oui, mais voilà, d'Afrique du Sud là, le chanteur africain.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Johnny Clegg.
Voilà. Ouais, j'aimerais bien.
Eh bien, merci beaucoup Eric.
I'm not afraid to die. Tap on your tambourine. Tap on your tambourine.
C'est l'heure de la chronique Née en l'air. Vous vous apprêtez à entendre une description d'un bâtiment emblématique de la vallée, mais saurez-vous trouver lequel c'est ? Vous pouvez nous envoyer vos réponses sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram, Globule Radio Chamonix, il y a des cadeaux à gagner. A tout de suite sur Globule Radio.
Levez les yeux. Non, pas si haut, juste là, sous les cimes, mais au-dessus du bitume. Pour une minute, vos oreilles deviennent vos yeux.
C'est le plus grand bâtiment de Chamonix encore actuellement. Il a été construit en 1913-1914. Il y avait à l'intérieur 300 chambres, dont 200 avec des salles de bain. C'était évidemment quelque chose de très important à l'époque. Encore de nos jours, il reste le bâtiment le plus grand. Il a été un grand et bel hôtel. Il y avait des fêtes magnifiques qui attiraient beaucoup, beaucoup de monde. Mais l'hôtel va durer jusque dans les années 50, où là, on va transformer l'hôtel en appartement. Et à l'époque, la commune avait racheté tout le rez-de-chaussée. Où se trouve donc ce bâtiment actuellement ?
Alors, vous savez devant quel bâtiment se trouve Christine ? Donnez votre réponse avant lundi prochain sur la page Facebook de Globule Radio et gagnez peut-être un petit guide de découverte du patrimoine bâti de la vallée de Chamonix.
We live on the highest grade. We live on the highest grade. Natural vibes, we say. We live on the highest grade. We live on the highest grade. We live on the highest grade. Natural vibes, we say. Yeah, smoke it in the Rizla, smoke it in the pipe. Smoke it any damn place you like. You smoke it in your house, you smoke it in the car. You smoke it in the pubs, you smoke it in the bar.
See, I'm the kind of brother when the shiny done blessing. I pass him to my sister, I want on me good bridging. We pass him in a circle, and that's without no petting. If I pass you my slip, I beg you don't wet it.
Your sticky weed, don't see it look frozen. That's the good, clean, high kind of golden. Yeah, blessed is the weed that we're talking.
I then be bleeding.
Good feed we needing, we breathing.
We live on the highest grade. We live on the highest grade. We live on the highest grade. Natural vibes, we say. We live on the highest grade. We live on the highest grade. We live on the highest grade. Natural vibes, we say.
We on a mystic high, this ain't weed abuse. Every time that we smoke high grade, we get loose. Drink the carrot juice and the Irish moss. Smoke good weed and we don't need to floss. We in touch with God, we know who's boss. Inside the smoke, getting all kinds of visions. Under the weed vibe, I make my decision to be true to the weed, true to the cause.
How much money must fold? Weed is worth much more than gold. And you know it shows in my style and flows that I kick it shows. Cause I bun it with the sisters,
bun it with the bros.
Yes,
we up on the highest grade. We up on the highest grade. We up on the highest grade. Natural vibes, we say. We up on the highest grade. We up on the highest grade. We up on the highest grade. Natural vibes, we say.
I'm about to announce pan Monday. Bun a lick of beef by Tuesday. See me took a quarter on Wednesday, still up on Thursday and Friday and Saturday with 3 grams for Sunday. But him, how you really feel about the weed? If I want it legalized, can I get a yes please?
Yes please.
How you really feel about the herb? If it's a bit bad, bad, can I really get a word?
Word.
Do you like the bun with licorice? Cause then the kind of rizla is the sweet up on your lip. Bun him.
Do you like the bun tobacco leaf?
I do you like to bun it in the pipe, they call it peace. Well,
sure we are the judge of bless.
Big things for runner.
Sure we love for bonuses.
Big splits for bonner. Chronic or indica.
Westmelon high grade.
Kiki is all green.
Zenny break on.
A man, pippy la pew in a bong till it pong. Smoke so much, fuck, where's my memory gone? Sometimes I long to puff, I don't remember how. Me not worry.
Says clubs gonna show you how.
We up on the highest grade. We up on the highest grade. We up on the highest grade. Natural vibes we say. We up on the highest grade. We up on the highest grade. We up on the highest grade. Natural vibes we say.
Yeah, yeah, yeah.
We up on the highest grade. We up on the highest grade. We up on the highest grade. Natural vibes we say. We up on the highest grade. We up on the highest grade. We up on the highest grade. Natural vibes we say. Thank you.
Globule Radio, l'oreille experte.
Je ne me trompe jamais, j'ai l'oreille musicienne.
Monte le son.
90.5 FM.
On a encore une bonne quarantaine de minutes. Nos studios sont installés à l'Alibi Bar. N'hésitez donc pas à passer nous voir. Ce vendredi, nous parlons donc de haute montagne. Alors, il semble nécessaire de parler de notre plus haute montagne, du toit de l'Europe, du Mont Blanc. Chaque année, ils sont environ 25 000 alpinistes à arriver au bout des 4810 mètres d'altitude. Seulement, plus que jamais, le Mont Blanc se mérite, car depuis le 24 mai dernier, l'ascension par la voie normale est réglementée. Il faut obligatoirement réserver sa place en refuge et être en possession d'un récépissé nominatif. Le but, mettre fin à la surfréquentation du massif et pallier aux nombreux débordements et incivilités qui avaient été constatés l'an dernier. Mais qu'en pensent les professionnels ? Pascal Tournaire, alpiniste et photographe, vient de nous rejoindre en studio pour en discuter avec Éric Gramont. Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, j'imagine que vous avez déjà fait le Mont Blanc.
J'ai pas compté.
Et étiez-vous au fait de cette surfréquentation et des débordements ? L'avez-vous constaté de vos propres yeux ?
J'ai dû avoir de la chance parce que moi, j'ai jamais rien vu déborder. J'ai eu la chance de le faire dans des conditions très différentes. Et même en pleine saison, d'arriver à me décaler totalement. Et c'est une montagne que je trouve magnifique. Alors après, qu'il y ait cet engouement, c'est tout à fait normal. Quelles en sont les raisons ? Elles sont multiples. J'ai eu la chance d'y aller avec des très grands guides qui arrivent toujours à trouver une solution pour justement pas faire comme tout le monde, se décaler au niveau du timing. Et puis bon, bah, tout le monde s'agglutine sur le même itinéraire. Mais il y en a d'autres, très très beaux.
Et vous, Éric, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que ce qui me fait peur, c'est pas tellement l'accumulation des gens sur Mont Blanc, mais c'est l'accumulation des gens sur des points touristiques. Comme l'Aiguille du Midi, le Skyway, la Jungfrau, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'en fait, à réguler les gens au Mont Blanc, on peut y arriver. Ils essaient, donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette réglementation. On verra bien, l'avenir nous dira si elle est efficace. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt qu'on amène les gens, entre guillemets, le tout venant, mais sans être péjoratif, à des altitudes et à trop hautes. Et surtout pour faire n'importe quoi. Par exemple, si on va à Jungfrau, là-haut, on a un parc d'aventure. Donc on voit des gamins à 3008 en train de faire
la tyrolienne,
des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça abject. Je trouve que c'est la mauvaise direction à prendre. Il faut que le milieu reste naturel et qu'il reste beau. Et là, il devient laid. Donc voilà, c'est ça qui me fait peur. Parce que le Mont Blanc, le jour où on enlèvera les câbles à l'Aiguille du Goûter, il y aura beaucoup moins de monde. Le jour où on mettra un tunnel à l'Aiguille du Goûter, il y aura énormément de monde.
Et demain, Éric, si je veux me lancer dans l'ascension avec un guide, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois procéder ? Et est-ce que je peux y aller toute seule, en fait, si j'en ai envie ?
Alors d'abord, il faut téléphoner donc à mon numéro.
Il faut appeler Éric Gramont.
Non, alors d'abord, il faut, en tant que guide, je pourrais vous dire qu'il faudrait y aller avec un guide, mais c'est faux. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec un guide. Ce qu'il faut, c'est avant tout avoir une formation suffisamment solide pour ne pas prendre trop de risques. Les risques, il y en aura toujours, quoi que vous preniez, même si vous êtes avec un guide. Les risques sont toujours là. Ils sont juste minimisés. Et donc, ce qu'il faut, c'est un entraînement donc physique, parce que, par exemple, pour le Mont Blanc, c'est quand même 10 heures de marche sur la dernière journée, hein, parce qu'il faut monter là-haut, donc 4-5 heures de marche, et puis il faut redescendre. Donc, pareil, 3-4-5 heures de marche à la descente. Donc, ça veut dire que c'est un effort prolongé en altitude et assez intense. Donc ça, il faut un entraînement physique. Ensuite, il faut une petite acclimatation, parce que le mal aigu des montagnes, ça peut arriver à beaucoup de gens, même si certains en sont un petit peu plus aptes que d'autres. Mais on y est tous sujets. Un guide qui fait son premier Mont Blanc de la saison, la plupart, on a mal à la tête. Et après, on s'acclimate doucement. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens soient acclimatés. Donc ça veut dire qu'il faut faire d'autres sommets avant, ou des séjours en altitude avant de faire le Mont Blanc. Ce qui n'est pas vraiment la tendance, puisque maintenant, plus en plus, les clients veulent faire le Mont Blanc sec.
Donc on arrive, on se prépare une journée, on y va.
Oui, parce qu'on vient consommer, on ne vient pas faire pratiquer la montagne, on vient consommer. Beaucoup trop trop viennent consommer. Pas, je ne dirais pas tous, hein, bien sûr, mais beaucoup trop.
Mais justement, donc, je parlais de cette nouvelle réglementation tout à l'heure, limitation des places en refuge, des bons de réservation, que tout le monde va devoir avoir sur soi en permanence. Est-ce que selon vous, et notamment vous, Pascal, ça va réellement changer quelque chose quant à la surfréquentation de ce Mont Blanc ?
Et là, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Moi, si j'ai envie d'aller au Mont Blanc en tong et en string, j'irai toujours au Mont Blanc en tong et en string.
Ça va être
bon,
sympa,
il faut...
hein.
C'est des conditions exceptionnelles de canicule ce jour-là. Mais j'ai trouvé extraordinaire de faire mon premier Mont Blanc à 16 ans en étant responsable de la cordée. Je m'étais préparé à ça. Ce qui est important, c'est que les guides expliquent aux clients que ça se prépare, la montagne, l'alpinisme. Sinon, bon, faire du traîne-couillon. Le guide il s'y retrouve pas, sinon financièrement bon, ça devient vraiment laborieux, alors que de faire découvrir le Mont Blanc qui est cette magnifique montagne avec un esprit de découverte d'une activité, là c'est formidable et ça se fait progressivement. Alors moi toutes ces législations je pense que c'est absolument inutile. Alors bien sûr il faut trouver des solutions rapides hein, parce que l'éducation ça se fait pas en deux temps, trois mouvements, mais elle passera que par là, sinon ça sera à chaque fois des échecs.
Et du coup, pensez-vous que le Mont Blanc restera le sommet numéro 1 aux yeux des alpinistes dans le massif du Mont Blanc, ou est-ce qu'ils vont s'orienter vers d'autres sommets, peut-être un peu moins contraignants ?
Attention, on ne parle pas d'alpinisme. Sommet numéro 1 pour des gens qui veulent aller au Mont Blanc, des touristes. On est loin de l'alpinisme, et ça se passe pour le Kilimandjaro, ça se passe pour la Concagua, ça se passe aujourd'hui pour l'Everest. On a des randonneurs d'altitude qui trouvent les moyens plus ou moins onéreux et pour aller là-haut. Et on est là pour faire pour cacher des cases, c'est tout. Mais en tout cas, pas pour découvrir une activité.
Et vous, Eric, qu'en pensez-vous ? On va continuer à aller au Mont Blanc ?
Moi, je pense, oui, on va continuer, à moins qu'il y ait des grosses canicules et puis qu'ils perdent 100 mètres, comme ce que je vous disais tout à l'heure. S'ils perdent 100 mètres, plus personne n'ira au Mont Blanc, parce que c'est l'altitude qui fait le truc. C'est un aimant, parce que c'est le plus haut de l'Europe. Mais le jour où il sera moins haut, ils iront au Mont Saint-Michel. Ils préféreront aller au Mont Saint-Michel. Non, mais enfin, c'est ironique.
Il n'y a que 20 mètres de glace là-haut. Hein.
Ouais, oui, il y a 20 mètres de glace, mais je veux dire, c'est le jour où tu iras en basket, ouais, il y aura beaucoup de monde, c'est sûr. Ouais. Mais c'est, en fait, ce qui. C'est sûr, ça c'est sûr, on va y arriver à ce que le Mont Blanc reste l'aimant. Mais ce qui fait peur, c'est qu'on fait tout pour que ça le reste. C'est notre démarche qui va pas, qui est foirée. C'est parce que on fait tout pour que ça reste, c'est-à-dire que on garde un équipement correct de l'aiguille du goûter, on garde des, on multiplie les refuges, on multiplie le nombre de places, et ça c'est pas bon. Il faudrait qu'on diminue ça. Il faudrait qu'on rende une montagne plus nature. Et là, elle est câblée. Il y a des échelles, il y a de tout. Donc pourquoi ? C'est parce qu'on veut que ça soit un placement. La montagne, c'est un placement. Mont Blanc, c'est un placement. Ça fait vivre beaucoup de guides.
Donc d'un côté, on essaye de restreindre l'accès et en même temps, on la rend toujours plus accessible.
Il y a quelque chose qui me choque énormément, par exemple, c'est l'aiguille du Midi, la Vallée Blanche. Ça ne dérange personne de donner un accès à la Vallée Blanche super facile, en taillant des marches, en mettant des cordes. De façon, et ça choque personne de voir des familles entières, enfants y compris, s'embaudriller au milieu du glacier. Et par contre, là, tout le monde s'émeut quand il y a 150 parapentistes qui se posent au sommet du Mont Blanc en basket. Et là, on dit, c'est pas normal, il y a eu un mort. Mais à l'aiguille, à la Vallée Blanche, il y en a combien de morts ? Il y en a combien qui sont s'embaudriller ? Et pourquoi ils sont s'embaudriller ? Parce que l'accès à la Vallée Blanche est super facile. Donc voilà, c'est le système de l'entonnoir. C'est-à-dire que l'accès est tellement facile qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, mais par contre, au niveau du rétrécissement, là où ça devient dur, ben voilà, ça coince un peu. Donc on se retrouve avec des gens qui vous disent, des mamans qui vous disent en pleine Vallée Blanche, excusez-moi monsieur, Chamonix c'est vers où ? Et ils sont au milieu du petit envers, donc c'est truffé de crevasses. Voilà, ben c'est ça qui va pas. Au goûter, je pense qu'on fait la même chose.
Eh bien, triste constat, mais merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je garde Pascal Tournaire avec moi pour encore une bonne demi-heure d'émission. On va parler photographie de montagne. Quant à vous, Eric, je vous libère. Merci encore d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site internet de Kailash Adventure. Plein d'activités y sont proposées, dont certaines encadrées par Eric. Merci beaucoup.
Merci.
m'as croisé cette fois-là. Te voyais-tu dans mon regard écru, tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu, que pensais-tu, que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. Je peux pouvoir.
Pas concernant la vallée de Chamonix.
Pourquoi pas un télésiège qui monterait au sommet du Mont Blanc ? Non mais il y a tellement de gens qui le demandent et qui se demandent où est ce fameux télésiège.
Ton coup de gueule pour la vallée de Chamonix ?
Où sont les champignons cet été ? Non mais c'est quand même un sacré vivier, cette belle vallée de Chamonix. Chamonix. Où sont les champignons ?
Quel est le lieu ou l'endroit où tu aimes aller pour te ressourcer et où tu te sens bien dans la vallée de Chamonix ?
Non, un petit coin sympa, mais qui est un peu secret, un caillou qui est sous les aiguilles rouges, dans la forêt, qui surplombe un peu la vallée, mais qui est peinard. Et des fois, quand je vais aux champignons,
quand il y en a,
je m'y pose et je médite, et je regarde un petit peu cette belle vallée.
Et enfin, dernière question, si cette nature, ces montagnes étaient en mesure de t'entendre, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?
Donnez-nous des champignons, nom de Dieu !
Globule Radio 90.5.
Globule Radio.
Globule Radio
90.5.
90.5 FM.
Maintenant, Pascal Tournaire, alpiniste, il est aussi et surtout photographe. Il suit les alpinistes dans le froid, sur les crêtes, sur les plus hauts sommets du monde. Il vient de publier un reportage dans le magazine GéoAventure sur un sommet méconnu, mais qui est tout de même l'emblème national norvégien. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver en kiosque. Et pour commencer, j'aimerais que Yael nous lise un petit texte que vous retrouverez sur le site internet de Pascal. Il y décrit son métier.
Être au bon endroit, au bon moment, avec la lumière pour seul maître. Ni conquête, ni sommet, ni croix, mais un instant, une vision. Dans l'absolu, c'est bien, mais la réalité est souvent plus triviale. La belle lumière précède toujours l'obscurité et ses contraintes. La montagne est belle, mais le voir et le montrer se fait depuis des lustres. Je préfère témoigner des émotions ressenties par les alpinistes. Le froid, la fatigue, la peur, l'engagement aussi, l'amitié, le sentiment de liberté. Les lignes que les alpinistes tracent ou suivent sur les parois sont invisibles pour les autres. Un peu danseur, un peu sculpteur, les alpinistes s'expriment. C'est un art furtif et éphémère. Je m'amuse à les suivre, souvent ils me traînent. J'essaye d'enregistrer leurs dessins, leur destin. Des moments intenses, légers comme le bonheur, parfois un peu plus lourds aussi.
Pascal Tournaire, bonsoir.
Bonsoir Juliette.
Alors, ce qui ressort de ce texte, c'est qu'au final, vous êtes très peu dans la recherche de la photo, que je qualifierais de photo exploit, de photo une de magazine, mais plus dans la recherche du cliché plein d'émotions, celui qui, quand on le regarde, on a froid, on a le vertige, on ressent en fait ce que vivent ces alpinistes, non ?
Oui, c'est ce que j'ai cherché. J'ai appris la photo avec un photographe qui était spécialiste des sports mécaniques, de la Formule 1. Et à ce moment-là, j'étais directeur d'artistique, pardon. Non, c'est un peu prétentieux.
Directeur artistique. Voilà.
C'est un magazine qui se faisait en cinq langues et moi, j'avais 25 ans et à chaque grand prix, je recevais des milliers d'images et sur les siennes, j'entendais le bruit des moteurs, je voyais les voitures rouler. Effectivement, elles étaient prises et il avait su donner dans une image fixe la sensation de vitesse. Donc, j'ai appris avec lui un peu, et j'ai toujours essayé, quand je fais des photos de danseurs, de montrer que la danse, c'est pas de la sculpture, ça bouge. Hein, quand je vois, mettre le mouvement, mettre la vie dans les images.
Et donc, vous faites beaucoup de photographies de montagne. Comment cette photographie de montagne s'est imposée à vous? Car vous avez fait du graphisme, de la photo de mode, et en plus, vous n'êtes pas montagnard, puisque vous êtes parisien, je crois.
Alors, parisien, j'aurais préféré, j'étais de Bondy, du 9-3, dans une cité qui était pas top. Et j'ai eu la chance que mon père, pendant mes 12 ans, me fasse découvrir le refuge des écrins. Et de voir ce glacier blanc et cette barre des écrins, ça m'a complètement bouleversé. Et je n'ai eu que de cesse d'y retourner. Et ils ont eu également l'intelligence de me laisser partir avec un pote de la cité d'en face, très tôt, à 15-16 ans. Et on a eu la chance, encore une fois, de pas faire de trop grosses bêtises en montagne. D'être suffisamment humble pour pas trop griller les étapes. Et puis, bien sûr, oui, on a eu la... oui, c'est de la chance quand même quand on apprend tout seul.
Et donc, quand vous êtes sur le terrain, donc en montagne, en haute montagne, si je puis dire, quelles sont les contraintes que vous avez? Le froid, et en même temps, il faut penser à sa technique en tant qu'alpiniste. Comment ça se passe tout ça?
Alors, il y a plein de cas de figure. Ça dépend si c'est un engagement, si c'est un projet personnel. Mais il faut être très vigilant, là encore. Quand on est concentré sur la photo, on est le pire des alpinistes. Hein. Et je demande souvent à la personne qui m'accompagne de regarder si je pose le pied sur la prise. Parce que si je suis derrière le viseur, surtout avec un grand angle, déjà, j'ai plus la même notion. Quand je suis alpiniste, je vois bien que les séracs, faut pas y aller, mais quand je suis photographe, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dessous. Pareil, un couloir d'avalanche, bah oui, la pente est belle, et forcément, j'ai envie de... voilà, c'est une autre approche. Et, c'est très dangereux, je pense, pour un photographe qui va être guide, parce qu'il va avoir les compétences de vouloir tout faire tout seul. Et il faut souvent quelqu'un en extérieur pour avoir un regard beaucoup plus lucide. Moi, je sais que la photo, quand je me suis concentré sur la photo, je vois plus rien que mon cadre. Donc, je suis un danger ambulant. Mais bon, on fait des choses formidables en étant à côté d'une cordée. Si c'est un terrain pas trop difficile techniquement, les caméramans font ça également. Je pense à David Hautement, je pense à plusieurs personnes dans la vallée, à Bertrand de la Pierre, enfin. Ça demande d'être très en forme et surtout très motivé, mais la prise de vue, la motivation supplémentaire que ça demande en fait est une aide.
Et je vois moi-même étant chamoniarde des touristes avec leurs smartphones, leurs appareils photos, qui photographient la montagne à tout va, qui postent ensuite ça sur les réseaux sociaux et qui se disent eux-mêmes photographes. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux?
Alors c'est très bien que tout le monde se passionne de la photo, j'ai toujours dit, personne n'est à l'abri de faire une très belle image. Ce qu'on demande à un photographe professionnel, c'est de rapporter de belles images, quelles que soient les conditions qu'il va trouver. Et après, il faut avoir suffisamment d'humilité pour voir ces images-là avec du recul. Alors, il est normal, il est tout à fait normal, en effet, que la plus belle photo du monde, ça soit celle de ses enfants, par exemple. Mais avec un peu d'objectivité, on peut se rendre compte aussi qu'il y a d'autres façons de photographier, et à ce moment-là, bah, ça demande un matériel beaucoup plus conséquent. Alors aujourd'hui, un photographe professionnel, on lui donne un iPhone, enfin n'importe quel appareil photo, il va rapporter quelque chose de formidable. On fait des films avec aujourd'hui ses portables. Mais pour que ça soit vraiment qualitatif, bah, les appareils sont toujours extrêmement onéreux et très lourds.
Et vous-même, donc, sur le terrain, je me demandais comment est-ce que vous communiquez avec les alpinistes que vous suivez et que vous prenez en photo? Parce que, est-ce que vous mettez en scène en quelque sorte? Est-ce que tout est pris sur le vif et vous arrivez vraiment à capter le moment avec la belle photo, la belle lumière? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un peu de mise en scène quand même?
Alors, même les photos de Douaneau, hein, on les a un peu démystifiées avec le baiser de l'hôtel de ville. Mais souvent, on vit... Moi, je suis passionné d'alpinisme. Bon, ça m'arrive de partir faire une course en étant relativement léger en photo, et c'est pas la priorité. Alors, si à ce moment-là j'arrive à avoir un éclairage extraordinaire, bon, bien sûr, je vais shooter. Mais mes plus belles photos d'alpinisme, en fait, je les ai montées en essayant de recréer une situation que j'avais vécue avec des alpinistes. Mais quand on est vraiment, moi, j'adore faire des photos quand ça commence à tourner mal.
Quand ça tourne mal.
Quand ça tourne mal, c'est-à-dire, j'adore le beau temps. Hein, je suis pas complètement masochiste, mais il se passe quelque chose. Quand, en effet, tout va bien, rien ne va plus. Hein, c'est très ténu, la différence. Mais là, à ce moment-là, même dans les visages, l'intensité des visages, des expressions, bien oui, on est sauf qui peut.
Et c'est justement la question que j'allais vous poser. Quand on voit vos photos, nous, on voit la beauté, on voit la pureté de la neige, les levées de soleil, les alpinistes. Mais du coup, est-ce que parfois ça se passe mal? Apparemment, oui, en tout cas. Et est-ce que vous avez conscience des risques quand même que vous prenez quand vous allez prendre certains clichés?
il faut pas être inconscient en montagne. Moi, j'adore l'alpinisme et je revendique le fait que l'alpinisme est dangereux. Et je souhaite qu'il le reste, parce que c'est ce qui lui donne de la valeur à l'alpinisme. Il est rare, il s'apprivoise. C'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain. On voit ça sur les gros sommets mythiques comme le Mont Blanc, comme l'Everest aujourd'hui, comme le Kilimandjaro ou la Concagua. Non, ça s'improvise pas. On peut pas violer. Hein. On va petit à petit, step by step, apprendre à se comporter de façon optimale en montagne. Et bah oui, avec la photo. Quand vraiment rien ne va plus, je range mon appareil photo, mais j'essaie de le faire après les autres. Hein. Et puis éventuellement, donc, de recréer une ambiance dans une tempête où je sais que le refuge n'est pas loin, essayer d'aller faire une photo, mais vraiment y aller pour faire la photo. Et je suis un peu comme un chasseur-cueilleur, un peu, avec la montagne. Le sommet, c'est plus ma priorité. Ce que je veux, c'est être au bon endroit. Voilà. Et j'ai repéré quelque chose en me baladant. Je fais beaucoup de repérage. À chaque fois, quand je me promène, moi, je vois des rectangles partout. Et après, je m'en sers en fonction des demandes.
Et enfin, j'ai une dernière question. Vous avez gravi et immortalisé de nombreux sommets. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce massif du Mont Blanc qu'il n'y a pas ailleurs, qui fait que vous aimez toujours autant le photographier ?
La vallée de Chamonix, le Mont Blanc, c'est exceptionnel. C'est nulle part ailleurs sur la planète, on a la haute montagne qui arrive dans la ville. Et ça, je pense que même les Chamonixards, ils n'en ont pas encore assez conscience. Peut-être que si on était aux États-Unis, la vallée serait fermée à partir de Genève. Non, c'est exceptionnel d'avoir cette ambiance-là, aussi forte, quand on est en bagnole, garé sur le parking. Le glacier nous tombe sur les genoux. Si on va en Alaska, bien le Denali, il faut prendre l'avion. Si on est à Katmandou, l'Everest, c'est loin aussi. Donc là, la proximité, vraiment, on est au cœur de la haute montagne déjà. Donc c'est son accessibilité et ensuite son graphisme. Déjà de par la qualité de son rocher, la protogine, le granit, il est exceptionnel. Et puis heureusement, on a encore de la glace. On retire la glace, c'est déjà un petit peu moins graphique.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Et avant de partir, vous allez y passer vous aussi, les questions au chapeau. Alors, donc, Yael va vous présenter des petits papiers. Vous allez en piocher deux, lui rendre, et il va falloir répondre du tac au tac. Et pas le droit de regarder les questions avant. Hein. Pascal essaye de tricher. Alors, Yael, c'est à toi.
Alors, de quoi êtes-vous le plus fier, Pascal ?
Fier d'avoir envie de me lever tous les matins pour faire mon métier.
Belle fierté.
Et si vous pouviez reprendre vos études, qu'est-ce que vous étudieriez ?
Oh là, il y a mille choses qui m'intéressent. Le problème, c'est de choisir, effectivement. Mais forcément, ça sera dans un domaine artistique. Mais j'aimerais apprendre la sculpture, j'aimerais apprendre la peinture, j'aimerais apprendre l'architecture, la danse. Enfin,
la danse.
Oui, tout m'intéresse, je suis curieux de tout, l'agriculture, enfin, et de faire ça de façon propre.
Eh bien, merci encore Pascal Tournaire et n'hésitez pas à aller voir son travail sur son site internet pascaltournaire.com. Son dernier livre sortira d'ailleurs fin août, un travail sur le yoga en montagne que Pascal fait depuis de nombreuses années. Il paraîtra aux éditions Guérin.
Yeah. comparison. Looking outside of me, now I see this world is unraveling. I wonder who could we be? Oh, I don't want to see us lose any more time. This moment is a mountain to move. Time. This moment is a mountain to move. So move it inside and wake up now. Give it to me, holding. 'Cause I was lost in comparison, always pretending I knew. But everything I was looking for, I was looking
Radio en direct de l'Alibi Bar. Merci d'être avec nous. C'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de vous laisser, vous vous demandez certainement ce qu'il y aura à faire dans la vallée la semaine prochaine.
Alors tout le week-end, ce sont les 70 ans du village d'Argentière avec au programme vente de livres, buvettes, repas, animation musicale. Il y aura aussi des jeux pour les enfants ou encore une tombola, dont un vol en hélicoptère à gagner. Les festivités se dérouleront sur la place du village. Et ce week-end, c'est aussi l'occasion de vous former au secourisme en montagne. Ce stage de 2 jours a lieu à la maison de la montagne sur la place de l'église de 8h à 17h. Et c'est au tarif de 120 €. Les inscriptions sont obligatoires. Samedi et dimanche aussi, 4 Cartal propose un atelier Land Art de 14 à 16h30 au chalet du Panda Club à Argentière. Et dans le cadre du festival d'orgue qui se déroule chaque dimanche de ce mois-ci, vous pouvez venir assister à un concert d'orgue de David Cassan. Le concert se déroule à l'église Saint-Michel de Chamonix et ça se passera donc ce dimanche 4 août à partir de 17h et c'est gratuit.
On passe maintenant au lundi à 21h30, séance de cinéma en plein air au lac des Chavans aux Zouches avec le film d'aventure Tout là-haut de Serge Azanavicius avec Kev Adams et Vincent Elbaz. La séance est gratuite. Mardi, vous pourrez découvrir les gorges de la Diosa à travers une randonnée et visite commentée gratuite de 2h. Rendez-vous devant la gare SNCF à 9h45. Il y aura ensuite un rendez-vous astronomique à ne surtout pas manquer. Le musée alpin de Chamonix vous invite à observer le soleil dans le planétarium sur les traces du naturaliste et alpiniste Joseph Vallaud, du physicien et géologue Horace Bénédicte de Saussure et de l'astronome Jules Janssen. Il y a une séance à 19h15, une autre à 20h45 pour un tarif entre 4 et 8 euros. La réservation est obligatoire.
Et mercredi, toujours au musée alpin, visite guidée à 14h30 pour découvrir les métamorphoses de la vallée de Chamonix depuis la première ascension du Mont Blanc et du développement du tourisme en montagne. Et autre visite guidée par l'Office du tourisme cette fois-ci pour découvrir les anciens hôtels et palaces de Chamonix. Le tarif est de 13 euros par personne. Rendez-vous à 14h devant l'Office du tourisme. Et à l'espace animation sur la place de la mairie aux Ouches, séance de cinéma avec le grand soir Cinébus. D'abord Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman.
Wouhou !
À 18h. Et puis Rocketman de Dexter Fletcher.
Quel accent, Yael.
Qui retranscrit la vie d'Elton John. C'est à partir de 21h.
Jeudi, venez participer au Cluedo géant organisé à la maison du lieutenant de Servoz entre 19h30 et 22h30. Ce sera à vous de résoudre les énigmes dans un décor grandeur nature. Les places sont limitées, pensez à réserver. Entre 21h et 22h30, concert des Divas à l'église Saint-Pierre d'Argentière. Les Divas vous proposent un concert aux chansons rythmées, aux influences aussi bien africaines qu'irlandaises, dans l'humour et la poésie, a cappella ou non. Le concert est gratuit.
Diva des As.
Ah, excusez-moi, c'est des divas quand même, mais les Diva des As. À 21h également, mais à l'église Saint-Loup de Servoz, cette fois-ci, concert de flûte et de guitare du duo Papillon. Des musiciennes italiennes joueront un répertoire du 19e et 20e siècle.
Et on termine avec vendredi où vous pourrez retrouver l'artiste Camille Desruelles.
Décidément, on a un problème avec les noms aujourd'hui.
C'est pour un concert d'orgue à l'église Saint-Pierre à Argentière à partir de 19h. La projection du film La Rose du Mont-Blanc de Daniel Lafargue et Sylvain Georges qui retrace la vie des cristalliers. C'est à la salle bicentenaire de Chamonix. La projection est suivie d'une conférence. Et enfin, vendredi soir se déroule la première soirée de l'événement La Nuit des Ours, de 19h à 2h. Un spectacle nocturne où se mêleront marches et spectacles de danse ou de musique. Venez nombreux, Globule Radio sera d'ailleurs présent sur place à partir du 7. Toutes les émissions se feront depuis là-bas. Et nous proposons aussi un stage mini-globule pour les enfants. S'ils ont entre 8 et 15 ans, vous pouvez les inscrire sur notre site internet globule-radio.fr. Il reste encore des places.
Et voilà, votre magazine touche à sa fin. Merci encore à Éric Gramont d'avoir répondu à toutes nos questions, mais aussi à Pascal Tournaire, deux personnalités de la vallée de Chamonix et deux amoureux de la haute montagne que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans cette émission.
Et merci aussi à Arthur et Marie Morgan à la technique et aux réseaux sociaux. Et enfin, merci à Ben, Julien et toute l'équipe de l'Alibi qui nous accueille chaque vendredi. On se retrouve dimanche pour une nouvelle émission. On parlera fêtes et festivals dans la vallée de Chamonix, mais aussi du Trien.
C'était Yael et Juliette sur Globule Radio. Passez une très très belle soirée. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Globule Radio Chamonix. À dimanche.
Globule Radio
90.5.
Globule Radio.
Globule Radio
90.5.
90.5 FM.
Entraîne ceux qui te haïssent. Que tu sois David ou Like. Pour Dieu, tu braques à Thalys. Tu OGM le maïs. Tu monétises le granit. Histoire de gars de fighting. J'ai peur pour la Ghost Knight. J'essaye, mais plus de smiley. J'écris, mais je n'ai plus 19. Faut être utile aux animaux. Je sais que ça fait pas kite. On vient de flinguer l'allée. Forêt de place de parking. Tu me parles de slap et la bitch. Faut que je vois pas d'autres alternatives. Juger les gens vous abîment. Mettre le pansement aux abysses. Nique les condés, je suis side. Je suis la dame, je suis aïe. Le cercle, il est chromatique. Je vis devant une mer de plastique. Une terre debout, tu fais fight. On fera plus Noël et live.
Tous les humains en bataille. Le chat qui part en bataille. Le fil du temps, il est tight. Pas de retour de Jedi. Pas de faux, pas de détails. Plus de métaux, pas de médaille. Plus t'es chaud, plus tu bétail. Plus je m'étais, plus je m'étale. Tous les humains en bataille. Le chat qui part en bataille. Le fil du temps, il est tight. Pas de retour de Jedi. Pas de faux, pas de détails. Plus de métaux, pas de médaille. Plus t'es chaud, plus tu bétail. Plus je m'étais, plus je m'étale.
Auto basique, je suis dans le four au platine. Solo, je m'ouvre mon body. Skunk de Snoop Dogg. J'ai mon couteau et ma bite. Son comme bourreau de l'Asie. Son comme nouveau nazi. Nous met dans douche d'eau acide. Là où le troupeau habite. Peur d'un bouc coranique. Peur de la tête arachide. Peur d'un Yugo Chinese. Pas que des Yugos assis. Là où j'suis double daddy. J'donne de l'amour aux familles. Tu fuck, j'donne de la voix d'Ukrasie.
Tous les humains en bataille. Le chien qui part en bataille. Le fil du temps il est tight. Pas de retour de Jedi. Pas de faux pas de détails. Mais mets-toi pas de médaille. Plus t'es chaud, plus tu bétailles. Plus je m'étais, plus je m'étale.
Tous dans des box, franchis dans des codes. Prends des cordes de ciné, prends des notes. Bien, bien, bien. Tous dans des box, franchis dans des codes. Prends des cordes de ciné, prends des notes. Bien, bien, bien.
Je prends le temps.